Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui sous le titre « Lire le Père Sophronie ». Nous sommes en compagnie de Jean-Claude Paulet pour parler de ce grand spirituel du XXe siècle que Jean-Claude Paulet a bien connu d'ailleurs. Et pour la première émission, Jean-Claude Paulet, vous aviez parlé des œuvres, un choix quand même d'œuvres du Père Sophronie, essentiellement évidemment ce qu'il avait écrit sur son maître, ce qui avait changé sa vie totalement. Et puis d'autres livres aussi. Aujourd'hui, nous allons parler des grands traits théologiques qui parcourent son œuvre, et puis évidemment de quelques travaux qui ont été inspirés par son œuvre, parce qu'il faut dire qu'une telle personnalité suscite toujours un grand intérêt, évidemment, et puis une ferveur de la part de ceux qui étudient la théologie et la présence de la pensée théologique dans le monde actuel. Quels sont ces grands traits théologiques de la pensée du Père Sophronie?
Il y a évidemment un trait majeur, que j'ai déjà d'ailleurs développé un petit peu au cours de la première émission, qui est le concept, la notion plus exactement, d'hypostase, de personne, aussi bien de personne divine que de personne humaine. On va y revenir. Mais pour faire écho à ce que vous disiez à propos de la réputation, je veux dire de la diffusion de la pensée et de l'œuvre du Père Sophronie, je crois qu'il est bon de signaler quand même quelques grands travaux qui ont été faits à son propos. Il a été assez rapidement célèbre en Europe occidentale, puis peu à peu en Europe orientale. C'est assez curieux d'ailleurs de constater que c'est d'abord en Occident que sa réputation s'est faite, s'est construite, mais assez rapidement, quand les orthodoxes d'Europe orientale se sont rendus compte de la valeur de cette pensée et de cette œuvre, ils se sont employés non seulement à la lire, mais aussi à la diffuser, à la traduire en beaucoup de langues. Ainsi, par exemple, il y a eu des études qui ont été menées, aussi bien des thèses de doctorat que des mémoires de master, aussi bien en Grèce, en Roumanie, en Russie, que dans nos pays occidentaux, en Italie, en France par exemple. Alors, il y a tout récemment deux livres qui viennent de sortir aux éditions Apostolia, n'est-ce pas ? Un livre qui a été rédigé par un des principaux disciples du Père Sophronie, le Père Zacharias. Et le Père Zacharias, qui est moine au monastère du Père Sophronie depuis fort longtemps, a écrit ce livre qui s'appelle « Le Christ, chemin de notre vie, approche de la théologie du Staret Sophronie ». Et en fait, c'est la refonte de sa thèse de doctorat qui portait un titre plus explicite, si j'ose dire, sur le plan théologique en tout cas, « La réalisation du principe hypostatique dans la théologie du Staret Sophronie ». Un deuxième livre, publié également aux éditions Apostolia, est l'œuvre d'une démoniale qui a vécu et qui vit toujours au monastère du Père Sophronie en Angleterre. Il s'agit de Sœur Magdalène. Ce livre s'intitule « Conversation avec les enfants, la transmission de notre foi ». En fait, c'est la somme et la synthèse des considérations psychopédagogiques que Sœur Madeleine a accumulées au cours de plusieurs décennies de relations qu'elle a eues avec les enfants et les adolescents dont elle s'est occupée, notamment lorsqu'ils venaient au monastère avec leurs parents ou autrement. Et elle construit pour les enfants, à partir de leurs témoignages, une manière de concevoir la vie humaine, en fonction de cette notion capitale qui est celle de la personne. Il y a eu d'autres écrits, évidemment. Le petit-neveu du père Sophronie, le père Nicolas Sakharov, a écrit une thèse publiée d'ailleurs aux éditions du Cerf, qui s'appelle « J'aime donc je suis ». Il y a un livre de Jean-Claude Larcher sur Saint-Sylvain, publié lui aussi aux éditions du Cerf. Et il y a encore d'autres thèses qui sont en cours ou qui ont été publiées. Je crois que on pourrait faire une bibliographie. Du reste, je signale que notre revue de l'association Saint-Sylvain, Buisson Ardent, a systématiquement, chaque année, un chapitre qui est consacré à la bibliographie de Saint-Sylvain et du Père Sophronie dans toutes les langues, et sur Saint-Sylvain et du Père Sophronie dans toutes les langues également. Pour les chercheurs et pour tous ceux qui s'intéresseraient à Saint-Sylvain et au Père Sophronie, c'est une mine de renseignements, évidemment.
Et il y aura sur le site de notre émission, bien sûr, le lien pour aller sur le site de l'association Saint-Sylvain, dont vous êtes le secrétaire général, et pour avoir accès donc à ces publications.
Alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, aussi bien dans l'œuvre du Père Sophronie, dont j'ai déjà parlé, mais que c'est aussi intéressant dans les deux livres que nous venons d'évoquer, du Père Zacharias et de Sœur Magdalène, c'est que ces deux livres sont tous deux fidèles à l'enseignement du Père Sophronie et à la pratique de la vie dans son monastère, et qu'ils sont, l'un comme l'autre, édifié sur un même principe, qui est précisément le principe hypostatique. Et ça peut paraître assez naturel dans une thèse de doctorat de théologie, n'est-ce pas, du père Zacharie, mais ça peut paraître plus étrange dans un livre qui est adressé aux parents et aux jeunes gens d'aujourd'hui, car il commence lui aussi par un chapitre intitulé « Personne divine et personne humaine », ce qui revient évidemment à mettre en évidence le fameux principe hypostatique qui, pour le père Sophronie, ou la notion de personne, si vous voulez, dans le sens, je dirais, particulier du mot, est la pierre d'angle, la pierre de touche de la vérité, non seulement chrétienne, mais spirituelle du christianisme. Cette double insistance sur la même réalité de la personne ou de l'hypostase dans ces deux livres, qui sont de public et de propos assez différents, montre à quel point c'est l'évidence première et absolue qui éclaire la théologie et la spiritualité transmise par le père Sophronie. En fait, c'est cet aspect qui aussi a converti et persuadé beaucoup de gens qui ont fréquenté le père Sophronie directement ou à travers son œuvre, ou qui ont fréquenté le monastère, à, sinon à se convertir directement à l'orthodoxie, au moins à avoir une autre vision de ce que l'homme peut être, de ce que l'homme est, lorsque il envisage autre chose et au-delà même de sa propre mort. Il faut, pour cela, peut-être revenir un peu à un des livres que j'ai évoqué brièvement à la première émission, qui s'appelle « Sa vie est la mienne », où le père Sophronie signale qu'elle a été finalement l'élément décisif de sa révélation de la droite voie qui mène vers le Christ. Et ce n'est pas indifférent, parce que cette première étape, c'est Moïse. De telle manière qu'il y a là comme une espèce de conciliation dans la continuité entre le dépôt de la tradition juive et le dépôt de la tradition chrétienne, transfigurée, transcendée dans une certaine mesure, mais aussi révélée dans ses fondements par la personne du Christ. Alors, je lis, c'est le début de ce livre, n'est-ce pas ? Il écrit ceci. « Il est indubitable que pour nous, pour tout le monde chrétien, un des événements les plus importants enregistrés sur l'histoire fut la manifestation de Dieu au mont Sinaï, où Moïse reçut une connaissance nouvelle de l'être divin. Yahvé, je suis celui qui suis. » Dès ce moment, de vastes perspectives s'ouvrirent pour l'humanité et l'histoire prit une orientation nouvelle. Ensuite, il va manifester clairement que cette révélation était incomplète. Il dit, je le cite, « que la révélation reçue par Moïse ait été incomplète, cela apparaît clairement dans les témoignages qu'il donna au peuple. » Ouvrez les guillemets, « le Seigneur, ton Dieu, suscitera au milieu de toi un prophète, c'est lui que vous écouterez. » Ce n'est donc pas lui qui est la fin de la révélation. Et en réalité, celui qui est la fin de la révélation, c'est précisément le Christ, ce prophète, bien plus qu'un prophète à vrai dire, que Moïse a annoncé, mais dont Moïse a donné, si j'ose dire, la prémisse de révélation. Il y a donc, chez le père Sophronie, et tel que ce livre l'indique encore, l'insistance sur le fait que la révélation que Moïse eut de Dieu à propos de son être divin est capitale. Le Christ, ensuite, est venu donc accomplir cette révélation en révélant la Trinité et par son incarnation en donnant aux hommes le mode opératoire de la restauration de leur image et ressemblance avec Dieu. C'est de cette vérité théologico-anthropologique qu'incarne le Christ que se déduit la vérité anthropologique de l'homme, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui est donc doté d'un être analogue à son créateur, non pas identique évidemment, puisqu'il est créé. Tout dans la théologie du père Sophronie commence et finit par le concept de personne, ou, meilleure formulation, comme il l'a insisté lui-même pour finir, d'hypostase. Hypostase, en grec, signifie à la fois substance et aussi personne. Mais, si vous voulez, il y a une espèce de réciprocité paradoxale, une espèce d'antinomie entre le fait qu'une personne et une substance soient désignées par la même réalité. Mais c'est parce que la personne est l'être de Dieu autant que l'être de Dieu est personne. Sœur Magdalène, dans son livre, qui, rappelons-le, s'adresse à des parents et à des jeunes, donc à un public non théologien, insiste sur la même chose. Elle dit « L'anthropologie orthodoxe, notre façon de comprendre les humains, est basée sur la théologie, c'est-à-dire sur la révélation que nous avons reçue de Dieu. La théologie orthodoxe, continue-t-elle, met l'accent sur la personne en Dieu et dans l'humanité, et c'est pour cela que le terme hypostase a été introduit. » Vous voyez que c'est un concert, c'est un consensus général, alors qu'il n'y a pas de concertation, a priori, évidemment, entre ces deux auteurs, et moi-même en l'occurrence.
C'est le moment de faire notre pause. C'est encore Arvo Pärt. On a bien dit que Arvo Pärt, le grand compositeur que nous connaissons, estonien, était lié aux Pères Sophronies. Alors cette fois-ci, c'est un extrait de la Missa Syllabica, une œuvre de 1977, revue en 1996. Et c'est le Gloria que nous entendons par l'ensemble vocal Theatre of Voices, dirigé par Paul Hillier. Gloria de la Missa Syllabica d'Arvo Pärt. Nous revenons à notre conversation avec Jean-Paul Paulet sur les écrits du Père Sophronie et en particulier les grandes idées théologiques qui parcourent son œuvre. Si vous voulez bien, on va revoir un tout petit peu cette idée fondamentale pour lui de l'hypostase, c'est-à-dire de la personne. Je rappelle que nous sommes ici au cœur de la théologie et que personne veut dire... Théologiquement est une notion extrêmement chargée et vous l'avez opposée déjà lors de l'émission précédente à la notion d'individu qui est quelque chose de complètement sec, je dirais, et qui n'est pas en contact et en communion avec les autres êtres. Alors si vous voulez bien, on revient un peu à l'hypostase et puis après on parlera d'une autre idée qui est très importante pour lui.
Mais donc en fait, le Père Sophronie a beaucoup insisté sur l'idée, sur la notion de personne et d'hypostase, et ça l'a amené à mettre en garde contre divers abus de langage et à marquer des différences conceptuelles majeures. Et par exemple, la première distinction qui s'impose, vous venez de l'évoquer, c'est la différence entre individu et hypostase. Un individu désigne abstraitement un être appartenant à une espèce. Et dans le cadre général des caractéristiques de cette espèce, cet individu présente des traits particuliers qui font sa différence spécifique. C'est vrai pour les poules, c'est vrai pour les animaux, comme pour les hommes, n'est-ce pas? Et l'éthologie s'emploie à créer précisément des liens entre ces spécificités individuelles. Or, l'espèce humaine, étant particulièrement riche de traits généraux susceptibles de combinaisons infiniment diverses, les individus y sont à ce point spécifiques et uniques qu'on peut parler d'identité irréductible. Et c'est de là qu'a émergé le concept de personne. Un concept aujourd'hui reconnu en droit, en politique, en psychologie, en médecine et qui s'est imposé dans les sociétés humanistes. Et c'est ici, en anthropologie orthodoxe, que la notion d'hypostase vient marquer sa différence radicale. En effet, l'hypostase humaine, la personne humaine, théologiquement parlant ou anthropologiquement parlant, n'apparaît à la conscience que lorsque la conscience est arrivée par le travail de l'ascèse et la grâce de la prière à trouver en elle-même dans la conjonction de l'intellect et du cœur, le lieu où s'est épuisée l'énergie de l'orgueil. Cette énergie qui ne peut accepter que l'être de l'homme n'est rien par soi. L'hypostase n'apparaît à la conscience humaine que lorsqu'elle a trouvé en ce lieu même où elle a abandonné les entraves de l'orgueil, le lieu de l'humilité, le point d'appui de son être qu'Adam avait au moment où il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais qu'il a perdu par la chute, par la volonté de s'affirmer comme autosuffisant. Ce point d'appui qu'il avait originellement, c'était celui où il reconnaissait qu'il devait tout à Dieu. Et c'est là aussi le point d'appui sur lequel le Christ s'est appuyé pour faire monter l'être de tout le créé du fin fond de l'enfer du néant, où sa dérisoire autosuffisance l'avait condamné, vers la vie divine dont lui-même et la Sainte Trinité avec lui est la source. Cette notion de l'hypostase, qui est tout à la fois la clé et la substance de l'être de Dieu et de l'homme, restauré à l'image et à la ressemblance du Christ, est également, dans la mesure où elle transcende le concept d'individu ou de personne individuelle, le principe de discernement qui a permis au père Sophronie de renoncer à la spiritualité orientale et de retrouver en plénitude la grâce du Christ. Car selon la spiritualité orientale, ou du moins selon la manière dont il avait interprété cette spiritualité orientale, il considérait que la personne, réduite dans une certaine mesure au trait de l'individu que je viens d'essayer d'évoquer, la personne était une limitation, et que cette limitation ne pouvait pas être compatible avec l'infini et l'absolu de l'être premier et du Dieu tel qu'il pouvait le concevoir, lui, d'une manière aussi absolue que possible. Or, il s'est rendu compte, grâce à Moïse d'une part et à sa révélation, grâce surtout au Christ et à la révélation chrétienne, il s'est rendu compte que ce concept, cette notion de personne, est loin d'être l'équivalent de l'individu, qu'au contraire, c'en est l'opposé, et que la personne en Dieu est le secret même de son être, l'origine en quelque sorte aussi puissante que sa nature de sa réalité absolue. Et du moment que cette réalité absolue s'affirme en Dieu, elle pouvait s'affirmer en l'homme à l'image du Christ.
Pour les quelques minutes qui nous restent, d'abord une question très précise. Il a toujours écrit en russe, c'est ça ?
Oui, le russe est sa langue maternelle, n'est-ce pas ? Il a écrit la plupart de ses livres en russe. Il a écrit une autre petite chose en français, mais globalement, il connaissait parfaitement, en plus du russe, le français et le grec. Le grec, il l'a appris à la demande de son abbé de Saint-Pantélimon au Moitos, parce qu'il fallait que des Russes puissent parler en grec, évidemment, avec les autres monastères. Il connaissait parfaitement le grec, parfaitement le français, ce qui fait que les traductions de son œuvre en russe qui ont été données en français et en grecs ont été relus par lui et sont donc, en cette mesure-là, authentifiés, si j'ose dire.
Pour les 2-3 minutes qui restent, un mot sur l'orgueil. Je vous dis ça parce que j'ai moi-même connu le père Sophronie à travers son dernier livre. En fait, voir Dieu tel qu'il est, j'ai commencé par ça, et je vois qu'il est une sorte de résumé de sa vie et de son expérience spirituelle. Et en fait, il place l'orgueil au centre même de tous les maux. Il dit que c'est le départ de tout ce qui est mauvais. Alors, peut-être un mot là-dessus, parce que je crois que ça résume sa pensée aussi.
Oui, oui, sûrement. En fait, l'antinomie, l'inverse, les antipodes de l'orgueil, c'est l'humilité. Or, d'où vient l'orgueil ? De l'illusion qu'Adam, c'est-à-dire l'homme en général, n'est-ce pas, peut avoir du fait qu'il est autosuffisant, que son être, en quelque sorte, se suffit à lui-même, que son être est en soi et pour soi, pour reprendre des expressions habituelles chez Sartre, n'est-ce pas ? Eh bien, son être est en soi et pour soi et se suffit dans cette circulation de l'en-soi et du pour-soi. Et en vérité, l'homme n'est absolument rien en soi, même s'il a été fait dans une certaine mesure pour subsister dans la substance même qui lui était donnée. Mais il a été fait par Dieu et il doit, lorsqu'il existe et prend conscience de son existence, se rendre compte d'abord qu'il ne peut pas subsister lui-même, qu'il ne peut pas donc s'affirmer comme Dieu s'affirme par ailleurs. Or, l'orgueil, c'est l'autodéification. Et l'humilité, c'est le retrait permanent à l'intérieur de soi vers un lieu qui est précisément le vide de soi où précisément on peut retrouver l'étincelle initiale de la création de l'homme par Dieu qui a créé en quelque sorte une possibilité pour lui-même de susciter un autre que lui et qui allait être avec lui en lien le plus étroit possible, le lien d'être.
Par où commencer si on ne connaît pas le Père Sofroni?
Si on ne connaît pas le Père Sofroni, je crois qu'il faut commencer par lire des choses simples. Il y a un livre qui a apparu, qui maintenant malheureusement est épuisé, j'espère qu'il sera réédité, qui s'appelle « De vie et d'esprit », qui a été publié aux éditions du Cerf, il y a de cela bien des années déjà, en collaboration avec les éditions Le Sel de la Terre. Ce livre est fait d'un certain nombre de sentences, on pourrait dire d'apophthegmes, c'est-à-dire de phrases ou de sentences qui sont là manifestement comme des frappes de l'esprit de Saint-Silouane et du Père Sofroni. Si on lit ces phrases-là, et je pense que ces phrases-là sont des déclencheurs d'intériorisation, je pense qu'on peut être bien parti. Mais évidemment, ça donne évidemment tout de suite l'issue première qui est le livre sur Saint-Silouane.
Et bien sûr, nous pouvons aller sur le site de l'association Saint-Silouane Latonite, dont vous êtes le secrétaire général et dont nous mettrons les coordonnées sur notre site, pour avoir accès à une bibliographie complète et votre revue, évidemment, Buisson Ardent, hein, qui tient informée toute personne qui le désire sur les écrits, évidemment, sur le message du Père de Saint-Silouane, mais également du Père Sofroni. Jean-Claude Paulet, un très grand merci pour ces deux émissions consacrées aux lectures, aux écrits et aux œuvres du Père Sofroni. Alors pour terminer, comme pour la première émission, ce sera sur la musique de Avo Pärt, compositeur donc proche du Père Sofroni. Cette fois-ci, c'est un Alléluia chanté par l'ensemble Vox Clamantis. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Philippe Mercher. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.